France Culture.
Et l'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. La colère de milliers de femmes dans les rues du pays aujourd'hui face aux violences masculines en augmentation et aux subventions en baisse pour les associations. Elles appellent l'État à révolutionner sa politique de lutte contre ces violences systémiques. Des violences des narcotrafiquants sans limite à Marseille, contre lesquelles plus de 6000 personnes ont participé au rassemblement lancé par le militant écologiste et antidrogue Amin Kessassi, dont le petit frère a été assassiné la semaine dernière. Infléchir le plan américain pour l'Ukraine, c'est ce à quoi s'emploient les Européens qui s'invite aux négociations entre Ukrainiens et Américains demain à Genève. Et puis un accord, oui, mais un accord à minima, adopté ce soir à la COP30 au Brésil, avec un texte qui ne mentionne pas de plan de sortie des énergies fossiles. Élodie, Laure, Mélina et Béatrice, ce sont quatre femmes qui ont été tuées en l'espace de 24 heures aux quatre coins du pays, jeudi, par leur conjoint ou ex-conjoint. Une dramatique illustration de l'augmentation des féminicides qui repartent à la hausse depuis l'année dernière. Au moins 149 femmes ont ainsi été tuées depuis le mois de janvier, d'après le collectif Nous Toutes, qui a appelé à se mobiliser aujourd'hui au sein du mouvement Grève Féministe, rassemblant une soixantaine d'associations à trois jours de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Des cortèges ont défilé à Lille, Lyon, Rennes, La Rochelle ou encore Paris, où les militantes ont dénoncé le désengagement du gouvernement. Lou Momège.
Elles sont unanimes dans les rangs violés de la manifestation. Maud, par exemple, travaille à la Fondation des Femmes et sur le terrain, le constat est alarmant.
La plupart des associations nous disent qu'ils ont des difficultés de trésorerie, qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir avoir suffisamment de budget pour 2026, qu'ils sont obligés de supprimer des postes, supprimer des permanences. Et nécessairement, ça a un impact direct, c'est-à-dire que c'est moins de femmes qui sont aidées. C'est aussi des personnes qui travaillent, qui sont surchargées et ça peut être très dur pour elles aussi.
Des baisses de subventions telles que le milieu associatif craint des fermetures, notamment au planning familial. Or, les conséquences sont lourdes pour les femmes en détresse, explique Agnès Aoudaï, coprésidente du mouvement des mères isolées.
Aujourd'hui, sur le terrain, c'est la misère, en fait. C'est 45% des mères isolées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est des femmes qui sont obligées de rester dans des foyers violents parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de partir. Et c'est des enfants qui subissent les violences dès leur naissance ou après. Parce que rien n'est fait en termes de politique publique.
Alors oui, Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, va annoncer la semaine prochaine une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Mais comme Yelena Mandinguet, chez Nous Toutes, peu de militantes s'en réjouissent vraiment.
C'est un peu ce discours qui est en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours symboliques qui sont portés par le gouvernement et on veut sonner l'alerte sur le fait que tout cela, c'est un peu de la publicité politique, mais qu'aujourd'hui, le concret, c'est les militantes qu'il faut écouter. Ce sont les associations qui constatent finalement un manque de soutien, d'où l'appel à la de la société sur ces questions.
Les associations féministes réclament un budget de 3 milliards d'euros et appellent à co-construire un plan d'action global contre des violences jugées systémiques.
Un reportage dans le cortège parisien signé Lou Momège. Plus de 6000 personnes ont participé à un rassemblement organisé à Marseille afin de réclamer justice pour Mehdi, le petit frère d'Amin Kessassi, militant écologiste et anti-drogue, assassiné la semaine dernière à Marseille. Dans la foule, de nombreux représentants politiques, mais aussi des Marseillais, des riverains du 4e arrondissement. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce rassemblement pour France Culture, rassemblement auquel a finalement participé Amin Kessassi, accompagné de sa mère Wassila Benhamdi, doublement endeuillée après la mort d'un premier fils il y a 5 ans, tué dans un narcomicide. Et tous deux, Mathilde, ont appelé à se lever pour combattre le narcotrafic.
Oui, face à une foule vêtue de blanc, à l'endroit même où son petit frère a été froidement abattu, le militant Amin Kessassi a fait passer un message enregistré. Nous parlons parce que le silence tue, dit-il. Il a ensuite dénoncé les renoncements de l'État.
Je ne me tairai pas. Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs, les enseignants auxquels on demande tant l'heure, donnant si peu. Voilà ce qui fait les affaires des trafiquants.
Un discours applaudi par une foule très émue, beaucoup d'anonymes, des jeunes, des retraités, des familles qui ont déposé des fleurs blanches, beaucoup d'habitants de Marseille venus soutenir la famille Kessassi et leur combat contre le narcotrafic.
Vraiment, ça me bouleverse. Moi, la première raison pour laquelle je viens, c'est pour que Amin et sa famille se sentent moins seuls.
Pour moi, la phrase essentielle qui a été dite, c'est plus d'égalité, moins de criminalité.
on a scandé ça tous et toutes ensemble.
Il faut essayer de s'exprimer collectivement, savoir dire stop, essayer de briser cette escalade dans laquelle on est en train de s'engluer.
La plupart ici espèrent que ce rassemblement sera une prise de conscience, un sursaut, alors que des élus de tous bords, vous le disiez, étaient dans la foule. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui appelé à résister.
Mathilde Vincenot en direct de Marseille. Jamais un projet de budget n'a été aussi massivement rejeté à l'Assemblée. La quasi-totalité des députés ont voté contre la partie recette du PLF 2026 la nuit dernière. Avec 404 voix contre, une seule voix pour. Conséquence, eh bien, l'ensemble du PLF part désormais au Sénat, où les sénateurs repartiront jeudi de la copie initiale du gouvernement. Et l'on voit mal comment ce projet de budget pourrait être adopté avant la fin de l'année, même si le ministre de l'économie, Roland Lescure, se dit encore convaincu qu'un compromis est possible. Réunis au G20 à Johannesburg en Afrique du Sud, les dirigeants européens tentent de repousser l'ultimatum fixé par Donald Trump, lequel donne jusqu'au 27 novembre à Volodymyr Zelensky pour signer le plan américain pour l'Ukraine et ses 28 points qui reprennent plusieurs exigences clés de la Russie. Un plan qui inquiète les Européens. Ils réclament dans une déclaration commune un travail supplémentaire. Frédéric Seyss, vous êtes à Johannesburg où les dirigeants européens ont donc décidé d'envoyer en urgence leurs émissaires diplomatiques en Suisse demain pour participer aux discussions entre Américains et Ukrainiens.
Oui, le plus proche conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron est envoyé à Genève demain, tout comme ses homologues européens pour cette réunion. Réunion déclenchée en urgence, à l'origine entre Ukrainiens et Américains. Les Européens s'invitent pour peser et pour s'interposer entre Washington et Kiev. Donald Trump exige de l'Ukraine qu'elle accepte son plan de paix d'ici 5 jours, avec des conditions qui étaient jusqu'ici des lignes rouges pour les Ukrainiens. La perte de territoire dans l'Est, une réduction de son armée, une interdiction d'adhérer à l'OTAN. Ce plan Trump va aussi à l'encontre des engagements des Européens. Jusqu'ici, il proposait d'envoyer des troupes en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu. Eh bien, ce plan américain interdit la présence de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Pourtant, l'Europe ce soir n'ose pas vraiment prendre de front les États-Unis. Elle évoque dans un communiqué ce plan de paix américain comme une base de travail, bien loin du ton catastrophé de Volodymyr Zelensky, qui estime, lui, que l'Ukraine vit l'un des moments les plus difficiles de son histoire.
Frédéric Seyss, les Européens qui se sont en revanche résignés à accepter la déclaration finale mise sur la table de la COP30 à Belém, au Brésil. Un texte modeste qui ne fait qu'une référence indirecte à la sortie des énergies fossiles. Si les Européens ont bien tenté d'y faire inscrire une feuille de route, ils se sont heurtés à l'opposition de la Russie, de l'Arabie Saoudite ou encore de l'Inde. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
En direct donc de Belém, au Brésil, où après 2 semaines de négociations que vous avez suivies pour France Culture, Véronique, c'est donc un accord final, sans ambition, qui vient d'être adopté.
Voilà, il y aura bien un accord à Belém, mais les espoirs d'une COP de l'action, comme l'avait souhaité, peut-être survendu, le président brésilien Lula, sont sévèrement refroidis à la lecture d'un texte bien modeste dans son ambition climatique. Ceux qui souhaitaient voir, comme l'Union européenne, ou sous l'impulsion d'ailleurs du Brésil, qu'à minima leur demande d'une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles soit dans la déclaration finale, en sont pour leurs frais. En 2023, avec le consensus de Dubaï, les pays s'étaient engagés pour la première fois à opérer une transition ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles. Le Brésil voulait ici aller plus loin, mais devant la menace de blocage des pays pétroliers, eh bien le Brésil a cédé. À la tribune, il y a quelques minutes, le président de la COP remet à plus tard la rédaction d'une telle feuille de route, sans l'abandonner donc complètement sous les applaudissements. Résigné de son côté, l'Union européenne a préféré ce compromis à un échec du multilatéralisme. Wopke Hoekstra, le commissaire européen au climat, on l'écoute.
On aurait aimé avoir davantage, mais au moins cela va dans la bonne direction. On aurait préféré avoir plus d'ambition surtout. Et pourtant, le monde est ce qu'il est, la conférence est ce qu'elle est, et nous pensons malgré tout qu'il s'agit clairement d'un pas dans la bonne direction.
Alors, il faut dire aussi qu'une partie des pays en développement n'avait pas vraiment comme priorité la bataille contre les fossiles. Pour eux, les financements sont plus urgents, notamment pour les aider à s'adapter au dérèglement climatique. Et là, la COP30 leur livre un petit gain. Le texte prévoit un triplement de l'aide financière pour l'adaptation, donc à l'horizon 2035 par rapport à l'objectif actuel de 40 milliards par an. Les pays doivent maintenant adopter la déclaration finale à la fin de la séance plénière qui se tient en ce moment.
Véronique Rebérotte avec Olivia Branger au moyen technique. La météo avec 14 départements placés en vigilance orange pour neige et verglas la nuit prochaine. Ceux de l'Île-de-France à partir de 20h et ceux du Massif central à minuit. Des chutes de neige sont attendues sur les départements franciliens ainsi qu'en Haute-Normandie, sur le centre Val-de-Loire et sur les les Hauts-de-France, des chutes de neige qui persisteront au réveil demain de l'Auvergne au Grand Est. Et les températures sont glaciales, entre moins 8 et moins 3 à l'est, moins 2 à 2 degrés attendus des Hauts-de-France aux Pyrénées, et jusqu'à 7 degrés sur la façade ouest. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.